Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire, l'armée libanaise va commencer à se déployer dans des zones pilotes du sud du pays, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre Nawaf Salam, au lendemain de l'annonce hier d'un accord de cessez-le-feu entre Liban, Israël à Washington, accord rejeté par le Hezbollah. Emmanuel Macron a annoncé que la France soutenait un cessez-le-feu au Liban et qu'elle se tenait à disposition pour y contribuer. Et en France, un corps dont l'identification est en cours a été découvert aujourd'hui près du lieu de la disparition de Liana, la fillette de 11 ans recherchée depuis 6 jours dans le Gers. Direction le Moyen-Orient, l'armée libanaise va commencer à se déployer dans des zones pilotes du sud du pays, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre Nawaf Salam, au lendemain de l'annonce hier d'un accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël à Washington. Cet accord rejeté par le Hezbollah mentionne la mise en place de ces zones contrôlées exclusivement par l'armée après le retrait israélien de parties du sud du Liban. Cet accord constitue la dernière chance pour parvenir à un cessez-le-feu global et définitif avec Israël, affirmé le président libanais Joseph Aoun. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a réclamé aujourd'hui un cessez-le-feu global au Liban et le retrait israélien, appelant Beyrouth à arrêter la mascarade, je cite, des négociations avec Israël. Et Emmanuel Macron a annoncé que la France soutenait un cessez-le-feu au Liban et qu'elle se tenait à disposition pour y contribuer. Je vous laisse écouter le président de la République.
Non, le cessez-le-feu entre le Liban et Israël permet en effet de restaurer la paix, de lutter contre les activités terroristes et de pleinement établir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. Et donc dans ce cadre, la France se tient évidemment, comme nous l'avons toujours fait, à disposition pour avancer sur ce chemin. Il y a un mécanisme de coordination qui a été mis en place, où les États-Unis et la France sont ensemble. Si le cessez-le-feu est sérieux, c'est ce mécanisme qu'il faut réactiver pour pouvoir faire le suivi et vérifier sa mise en œuvre. Et il faut ensuite définir les voies et moyens de permettre de restaurer la souveraineté libanaise et le retour des forces armées libanaises pour retrouver le monopole des armes, car c'est bien de cela dont il s'agit. Et donc, monopole des armes aux forces armées libanaises, intégrité territoriale libanaise et souveraineté libanaise sur son territoire et maintien du cessez-le-feu dans la durée pour une paix durable. C'est la politique que nous défendons, c'est celle que nous sommes prêts à soutenir.
Vous venez d'écouter Emmanuel Macron et l'Union européenne a annoncé accorder une aide de 100 millions d'euros pour soutenir l'armée libanaise. On reste au Moyen-Orient. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a accusé dans une déclaration écrite les États-Unis et Israël de chercher à diviser la nation iranienne après avoir subi, je cite, un revers cuisant dans la guerre déclenchée contre son pays. L'Agence internationale énergie atomique a annoncé dans un rapport confidentiel que le manque d'accès à des sites nucléaires importants en Iran constituait un motif de préoccupation en matière de prolifération. L'agence a appelé l'Iran à coopérer de manière constructive. Dans le reste de l'actualité, en Crimée, 4 personnes ont été tuées par des frappes ukrainiennes, selon les autorités, dans cette péninsule annexée par la Russie, au lendemain d'une attaque hier contre des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg, où s'ouvrait le principal forum économique russe. L'Union européenne devrait bientôt permettre à des États membres de créer des hubs de retour dans des pays tiers qui auront pour but d'accueillir les étrangers en situation irrégulière expulsés du territoire européen. Le texte est considéré comme une avancée en matière de politique migratoire par la droite et l'extrême droite et comme un recul pour les droits humains par la gauche. Réaction à notre micro d'Olivia Carnel, responsable des questions européennes à la CIMAD, Association de solidarité active avec les personnes migrantes.
On a un texte extrêmement répressif et du coup l'allongement de la durée de la rétention, oui, à juste titre, c'est aussi une mesure qui nous inquiète beaucoup. Bah, quelle mesure ça peut avoir? On sait qu'en fait la rétention administrative, du coup c'est de l'enfermement simplement parce qu'on n'a pas de papier, donc c'est pas forcément sur la base d'un délit ou d'un crime commis, hein. C'est uniquement le fait d'avoir pas de papier qui justifierait d'enfermer des personnes en centre de rétention administrative. Bah, du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement traumatisant pour les personnes enfermées, dans des conditions extrêmement dégradées, que ce soit sanitaire, santé, et en dehors du coût psychologique en fait, d'un tel enfermement administratif. Et là, en fait, ce qu'on propose, c'est des délais d'enfermement encore plus longs, où du coup, potentiellement, il y a des personnes complètement en rupture avec leur vie. Donc c'est sûr qu'il y a un impact psychologique et traumatisant très fort pour les personnes qui sont enfermées. Donc ça, c'est nous quelque chose qu'on voit comme quelque chose d'assez inquiétant. On a une accélération des textes répressifs et liberticides, c'est sûr, là, depuis les élections de 2024. C'est quand même dans la continuation directe de politiques migratoires répressives et attentatoires aux droits et de l'externalisation des politiques migratoires qui sont menées depuis longtemps en Europe, en fait. On avait, sous la précédente mandature, l'adoption du pacte européen migration et asile, qui introduit aussi tout un tas de mesures qui sont attentatoires aux droits, qui visent à restreindre le droit d'asile, qui vont venir compliquer en fait la vie des personnes exilées en Europe et où justement les bloquer aux frontières extérieures de l'UE pour les empêcher d'atteindre le continent. Donc c'est sûr que là on a des textes en fait répressifs qui sont adoptés très vite avec des mesures très dures et en fait c'est parce qu'il y a très peu de contre-pouvoirs progressistes, que ce soit au niveau du Parlement ou des États membres, et on a une commission qui est vraiment acquise aux intérêts des États membres. Après, est-ce que c'est une rupture ou est-ce que c'est une accélération et une continuation de politiques menées depuis très longtemps? Moi, je dirais que c'est plutôt ça.
Olivia Carniel, responsable des questions européennes à la CIMAD. Dans un tout autre volet, les avocats du journaliste français Christophe Glaise, emprisonné depuis un an en Algérie, ont annoncé hier le rejet d'un pourvoi en cassation du parquet qui clôture la procédure judiciaire, ce qui ouvre la voie à une possible grâce du président algérien. L'État français se mobilise pleinement pour obtenir sa libération, selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.
Nous nous mobilisons pleinement pour obtenir sa libération. Et c'est cette mobilisation à tous les niveaux jusqu'au président de la République qui nous a permis d'obtenir le 11 mai dernier la première visite consulaire. Nos équipes sur place lui ont rendu visite, ont pu s'assurer de son état physique et moral, de pouvoir constater qu'il était bon malgré la difficulté de l'épreuve qu'il traverse aujourd'hui. Et cette mobilisation va s'amplifier. Elle s'amplifie en lien étroit avec la famille de Christophe Glaise, dont je veux saluer la dignité et le courage. La mère de Christophe Glaise a adressé au président algérien une lettre en sollicitant de sa part d'envisager d'accorder une grâce. Nous souhaitons qu'une réponse positive puisse être adressée à cette lettre. Et puis par ailleurs, c'est le monde du sport, mais c'est aussi celui de la presse et des médias qui tous deux sont eux aussi particulièrement attachés à la figure de notre compatriote, qui se mobilise également pour appeler à sa libération. Et les visites récentes de la ministre déléguée aux armées, du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur et plus récemment cette semaine du ministre de l'Intérieur algérien à Paris, qui sont l'occasion également de faire passer des messages, et nous allons continuer car, comme vous, nous considérons que la liberté de la presse n'est pas négociable.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Dans l'actualité en France, un corps dont l'identification est en cours a été découvert aujourd'hui près du lieu de la disparition de Liana, la fillette de 11 ans recherchée depuis 6 jours dans le Gers. À Nantes, une nouvelle fusillade et un quatrième mort depuis la fin avril. Aujourd'hui, c'est un homme de 18 ans qui a été tué par balle en plein jour dans le quartier populaire de la Bottière. Les 5 dernières représentations à Paris de la pièce deuxième partie dans laquelle joue Patrick Bruel, le comédien et chanteur visé par plusieurs enquêtes pour viol, ont été annulés, selon la direction du théâtre Édouard VII. On reste en France. Le département de la Seine-Saint-Denis a annoncé aujourd'hui le lancement d'un réseau de lutte contre les discriminations ethno-genrées dans l'emploi que les habitants de ce département de la banlieue nord de Paris vivent régulièrement, dénonce le département. Et enfin, l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi est décédée à l'âge de 56 ans aujourd'hui. Elle s'est fait mondialement connaître avec la bande dessinée et le film Persepolis. Loïc Barrière nous dresse son portrait.
Marjane Satrapi aimait citer le grand poète perse Rumi qui a écrit qu'il faut des fêlures pour laisser passer la lumière. Elle avait 9 ans lors de la révolution iranienne. Enfant, elle voit des proches envoyés en prison. Exilée en France depuis 1994, elle est devenue française en 2006. Autrice de bande dessinée, Marjane Satrapi avait connu la consécration avec la saga autobiographique Persepolis, dans laquelle elle racontait son enfance en Iran, sous le joug des mollahs, la répression subie par le peuple iranien et son douloureux départ vers l'Europe. Primé en 2001 au Festival de BD d'Angoulême, le premier volet avait été suivi de 3 autres et porté à l'écran par Marjane Satrapi en 2007. Son film avait obtenu la même année le prix du jury du Festival de Cannes. Même si ce film est universel, je tiens à le dédier à tous les Iraniens, avait-elle alors déclaré. Marjane Satrapi avait refusé la Légion d'honneur française en 2025 pour dénoncer, je cite, l'attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l'Iran. Ce 4 juin, ses proches ont publié un communiqué indiquant que Marjane Satrapi est morte de tristesse un peu plus d'un an après le décès de Mathias Ripa, son mari et l'amour de sa vie.
Et le président Emmanuel Macron a salué, je cite, une immense artiste qui avait transformé une enfance iranienne en fable universelle. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.